Le grand témoin. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver tous les dimanches pour vous présenter celui qui sera notre grand témoin. Et pour aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Albert Moleka Nzoko, Emmanuel. Il est entrepreneur et aumônier des prisons, mais il est également homme politique. Monsieur Albert Moleka, bonjour et bon dimanche.
Bonjour et bon dimanche à vous et à ceux qui nous suivent sur Radio Okapi.
J'en profite aussi pour vous présenter les vœux les meilleurs pour l'année 2014.
Merci à vous aussi, que ce soit une année où Dieu vraiment vous comble de ses faveurs.
Alors avec vous, dans notre entretien, nous parlerons de votre personne. On va vous faire découvrir auprès des auditeurs de Radio Okapi. C'est vrai que le nom de Moleka, c'est un nom qui est connu hein, dans le pays. Mais vous particulièrement, on va parler de votre vie, de votre passé, de votre enfance, de votre jeunesse, de votre parcours. Vous êtes entrepreneur, aumônier des prisons et aussi en politique. On va revenir sur tout ce parcours. Mais avant cela, on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes né à Kinshasa un certain 13 janvier 1956.
Tout à fait. Pour les superstitieux, je suis né un vendredi 13.
Ça porte malheur, il paraît.
Non, moi, ça m'a toujours porté bonheur, le vendredi 13.
C'est à Kinshasa où vous avez grandi, vous avez passé votre enfance?
Oui, je suis né dans la commune de Dendal à l'époque, qu'on appelle aujourd'hui Kasavubu, sur Djolou 19. Et j'ai grandi à Kinshasa jusqu'à l'âge de 7 ans où mes parents nous ont envoyés en Europe pour étudier.
Toute la famille ou vous seulement?
D'abord, en 62, donc une année avant, c'est mes deux sœurs aînées qui sont parties. Et en 63, mon grand frère, Timothée Nzulama, et moi-même sommes partis alors pour les études.
Vous avez fait vos études primaires en Belgique?
Oui, disons les deux premières années primaires, je les ai faites ici, à l'Athénée de Kalina, de l'époque. Maintenant, je crois que c'est l'Athénée de la Gombe.
De la Gombe.
Oui. Sinon, le reste de mes études primaires, secondaires, universitaires, ça a été en Europe, c'est-à-dire en Belgique, et puis aux États-Unis, les post-universitaires.
Vous avez passé plus de temps à l'étranger qu'au pays?
Oui, en fait, j'ai passé en tout, lorsqu'on regarde bien, 19 ans. À l'étranger hein, pour les études. Et évidemment, l'avantage que ça donne, c'est que ça vous donne une vision sur le monde et c'est assez... c'est bien puisque ça donne un avantage dans l'avenir pour pouvoir apprécier les différents enjeux dans les affaires tout comme en politique.
À 7 ans, vous êtes en Belgique. L'intégration était facile?
Moi, à l'époque, l'intégration était assez facile parce que j'ai grandi en Wallonie, principalement dans la ville de Liège, et les Wallons et les Liégeois ont toujours été réputés pour leur hospitalité et leur ouverture. Mais bien sûr, on a vécu des cas où on était confronté un peu au racisme, pour le dire clairement. Mais ce racisme était beaucoup plus dû à l'ignorance des gens. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas toute cette technologie qui fasse que le monde est devenu un grand village, donc certaines populations et familles étaient toujours renfermées sur elles.
Particulièrement, vous... Est-ce que vous avez été victime de racisme en Europe quand vous êtes arrivé à l'âge de 7 ans?
Pas vraiment victime, parce que lorsque j'ai été confronté à certaines situations où des esprits racistes, si vous voulez, voulaient m'attaquer, je réagissais. Hein, je réagissais. Et des fois, bon, lorsque l'attaque était violente, je réagissais violemment aussi. On ne se laissait pas faire.
Et vous avez grandi dans quelles conditions?
Oh, très bien. Vous savez, là-bas, nous avons été accueillis et élevé par une dame merveilleuse, Madame Collard, qui est décédée il y a maintenant 43 ans, mais on l'appelait maman. C'était une véritable mère qui nous a accueillis. Donc on a grandi chez elle. C'est elle qui, je peux dire, a semé une grande partie des fondations morales sur lesquelles ma personnalité a pu vraiment se développer.
Et vous étiez quel genre d'enfant?
Oh, assez réservé, hein. Timide, assez réservé, un peu taciturne. Ce qui me caractérisait à l'époque, c'est que je lisais beaucoup. Hein. Je lisais beaucoup d'œuvres qui n'étaient pas de mon âge. Et puis, j'ai toujours été aussi sportif et j'ai toujours aimé la musique. J'ai appris à jouer la guitare seul à l'âge de 7 ans.
Seul?
Seul.
Sans quelqu'un pour vous apprendre?
D'oreille, simplement d'oreille, hein, à l'âge de 7 ans. Mais tout ça, j'étais aussi encadré et encouragé par cette dame merveilleuse. Par Madame Collard.
Vous avez un certificat, plutôt un diplôme d'état, un diplôme d'études secondaires, section latin mathématiques, du collège Saint-Barthélemy de Liège en Belgique. Oui. Et puis, un diplôme en économie sociale, de l'école d'administration des affaires, faculté de droit.
De l'université de Liège.
De Liège, toujours en Belgique. Oui. Un certificat de l'American Language Program à l'université de Columbia, à New York. Oui. Diplôme en économie sociale, et puis un certificat à l'université de Columbia, c'était pour apprendre la langue anglaise
pour... Oui, c'était pour, disons, perfectionner mon anglais, parce que je parlais déjà anglais à l'époque. Les parents, surtout mon père, a toujours été un visionnaire, et dès notre plus jeune âge, il a fait en sorte que, périodiquement, nous puissions aller, à l'époque, en Grande-Bretagne, durant certaines vacances, pour apprendre l'anglais. Mais lorsque j'ai décidé de suivre ma sœur est née aux États-Unis, là, il fallait alors apprendre, se perfectionner en anglais pour être capable de présenter les différents tests par lesquels vous deviez passer pour être accepté dans des études post-universitaires aux États-Unis.
Vous êtes issu d'une famille de combien d'enfants ?
9 enfants. Nous étions 9, maintenant nous sommes 7.
Et vous-même, vous êtes divorcé, père de 7 enfants ?
Oui, j'étais le 4e.
Mm-hmm. Oui. Vous êtes père de 7 enfants et grand-père de 2 petits...
Grand-père de 4 enfants maintenant.
Ah, 4 enfants
oui,
maintenant.
3 petits-fils et une petite fille.
Vous avez également un Master of Art.
Oui, en fait, Master of Art, en français, on pourrait prendre ça comme c'est la maîtrise en relations internationales. Le terme Master of Arts, c'est simplement parce que dans le système américain, vous avez les maîtrises en sciences humaines, c'est ça, Arts, et les maîtrises dans les sciences. Là, vous aurez Master of Science. Et là, c'est Master of Arts parce que les relations internationales, c'est une science humaine.
Quel est le souvenir que vous avez le plus marqué pendant votre jeunesse? C'est vrai que vous êtes encore jeune, on est jeune jusqu'à 77 ans, mais quand vous étiez plus jeune?
Oh, les souvenirs qui m'ont le plus marqué, c'est certains moments que j'ai passés avec mon père. Certains moments, j'ai eu, disons, la chance, la grâce de passer certains moments, même historiques, avec mon père, que je considère toujours, c'est la personnalité que j'admire le plus. Dans ma vie, et passer du temps avec lui, des fois d'une manière un peu comique, parce que je me souviens, lorsque j'étais très jeune, vers 4, 5, 6 ans, il m'arrivait de me cacher dans le coffre de sa voiture.
Pourquoi?
Alors il démarrait, il allait au travail, parce que je voulais aller avec lui au travail, et lorsqu'il arrivait à son bureau ici à l'Otraco, à l'Onatra, c'est là que je tapais dans le coffre et on disait, ah moi, cache un coffre.
Et pendant tous les parcours, vous étiez dans le coffre?
Dans le coffre, oui, dans le coffre. Et la proximité avec mon père m'a permis, évidemment, de à un très jeune âge, de rencontrer beaucoup de personnalités historiques dont je conserve encore des images très vives, très très vivaces, telles que Patrice Emery Lumumba, telles que Moïse Tshombe, Joseph Kasavubu.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie, Albert Molika?
L'hypocrisie et la nourriture mal préparée, voilà.
Vous-même vous préparez bien?
Quand il s'agit de préparer pour moi, oui.
Mais pas pour les autres?
Non, je ne pense pas que les autres me considéreraient un bon cuisinier. Donc je suis assez tolérant envers moi-même en ce qui concerne la cuisine.
Mais pas tolérant envers les autres quand ils préparent.
Je suis assez exigeant en ce qui concerne la nourriture.
La nourriture.
Je suis plus exigeant envers les autres qu'envers moi-même.
Et qu'est-ce que vous avez mangé? C'est quoi votre plat préféré?
Oh, le pondu yalimbondo avec le lituma, hein, bien mûr, et le liboké de Ngolo, si possible avec des possés.
Vous aimez le sport, le foot, il paraît.
Oui, bien sûr, le foot, le sport roi. J'ai joué au foot moi-même en Europe, dans des équipes de jeunes et des équipes scolaires. Et plus tard, moi-même, j'ai dirigé d'abord une équipe FC Calamou, où j'étais vice-président. Mon frère Timothée était le président. Et plus tard, j'ai
dirigé
aussi...
C'était une équipe de famille ou quoi?
Non, en fait, c'était une équipe, à l'origine, une équipe de quartier, hein, des Banayolo, en quelque sorte, hein, et que mon frère aîné avait repris lorsque moi j'étais encore aux études aux États-Unis. Et donc, lorsque je suis rentré, je l'ai trouvé, je l'ai rejoint dans la direction de cette équipe. Puis, j'ai dirigé aussi le Dying Club Motema Pembe en 92, et ce fut une expérience extraordinaire pour moi.
Pourquoi extraordinaire?
Extraordinaire parce que j'en ai tiré certaines leçons qui m'ont toujours aidé au niveau humain, c'est-à-dire des leçons dans le sens de la sagesse. Vous savez, lorsque vous êtes compétiteur, soit actif, sportif ou dirigeant sportif, vous apprenez beaucoup parce que vous apprenez d'abord à travailler pour la victoire, tout comme à accepter
la défaite
et à comprendre que la défaite ne doit que contribuer à la prochaine victoire. Et puis, vous apprenez aussi le fair play. Hein. En tant que dirigeant, vous apprenez vraiment à vous occuper de la jeunesse parce que à travers le sport, vous aidez des jeunes à sortir de l'anonymat, de la pauvreté. Vous pouvez les aider à donner un sens à leur vie et à être aussi des exemples de travail pour la génération à venir.
Parmi vos hobbies, il y a le sport, il y a la musique, vous l'avez dit, vous aimez la musique, mais aussi la lecture.
Beaucoup la lecture. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire que si vous voulez me torturer, vous n'avez pas besoin de me torturer physiquement. Mettez-moi simplement dans un endroit où je n'ai accès à aucune lecture, ça sera la pire des tortures pour moi.
Albert Mouleka, vous êtes, on l'a dit dans l'introduction, entrepreneur et aumônier des prisons. Entrepreneur dans quel domaine ?
Bon, je viens d'une famille d'affaires. Mon père a toujours été d'abord commerçant, puis homme d'affaires. Et il a bâti un empire, plusieurs sociétés de holding dans différents secteurs tels que l'agriculture, l'agro-industrie, l'immobilier et le commerce général. Et ce qui fait que dès que je suis rentré des études, j'ai été aussi, pas engagé, mais actif hein, au sein des affaires familiales.
Est-ce que ça veut dire que votre père vous préparait à ça?
Oui, bien sûr, il nous préparait à ça. Quoique moi, je me destinais à la médecine, c'est-à-dire dès mon plus jeune âge, parce que le premier livre que j'avais lu quand je suis arrivé en Belgique à l'âge de 7 ans, c'était une biographie du docteur Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, c'était un médecin qui venait d'une très bonne famille, très grande famille autrichienne, mais qui avait tout abandonné pour venir pas très loin de notre pays, au Gabon, et s'occuper des pauvres villageois, on peut dire qu'il a trouvé là-bas. Et cette biographie m'a touché, m'a radicalement changé déjà à ce jeune âge, et j'avais décidé de devenir docteur et missionnaire. Mais malheureusement,
qu'est-ce qui vous a dérouté?
C'était par un état de fait indépendant de ma volonté, parce que normalement mon frère aîné Timothée, selon la tradition, c'est le frère aîné qui succède un peu au père dans la gestion des biens familiaux, donc il était supposé faire les études commerciales, mais subitement, vers la fin de ses études secondaires, il a décidé plutôt qu'il avait la fibre technique et il a décidé de faire des études d'ingénieur technicien. D'où moi qui me préparais à la médecine, c'est ainsi que j'avais fait les humanités latines à l'époque, j'ai dû changer de cap et faire l'école d'administration des affaires.
Alors, aumônier des prisons, depuis quand ? Depuis quelle année ?
Depuis 1994, plus précisément au mois de mai 1994. C'était, je crois, ça a été une des conséquences de ce que j'appelle communément ma rencontre avec le Seigneur. Je viens d'une famille très catholique, mais en 1994, j'ai rencontré le Seigneur et c'est lui, en fait, qui m'a donné cette mission envers les prisonniers.
Alors, vous faites quoi concrètement? Aumônier des prisons, vous allez prêcher dans les prisons, vous allez partager la parole des dieux avec les prisonniers?
Oui, mais surtout on partage un peu le sort, les difficultés que les prisonniers rencontrent en essayant de les soutenir, les encourager, les exhorter par la parole de Dieu et aussi des fois par nos propres conseils.
Comment êtes-vous devenu aumônier?
En fait, avant cette conversion qui s'est produite le 10 mars 1994, dans le cadre de mes affaires privé, j'avais travaillé un peu pour la SNEL dans le fameux dossier de la dette de Congo-Brazzaville par rapport à la SNEL, qui à l'époque était libellée en francs CFA, Et le PDG de la SNED de l'époque, qui était un ami très proche, le défunt professeur Bingoto, connaissant un peu mes liens avec les dirigeants du Congo-Brazzaville à l'époque, j'étais assez proche du premier ministre Papa Yombi Opango, m'a demandé si je pouvais les aider. Son souci, c'était d'abord la consolidation de cette dette, c'est-à-dire qu'elle soit exprimée en dollars, et puis voir comment l'État congolais de Brazzaville pourrait commencer à payer. Et j'avais réussi obtenu la consolidation de cette dette en 48 heures, l'espace d'un week-end. Et pour le côté consolidation, donc la SNEL devait me payer à l'époque 50 000 $. Malheureusement, entre-temps, le professeur Bingoto est mort dans cet accident d'avion, je crois le 7 mai. Et les choses étaient très ralenties. Et entre-temps, j'étais déjà complètement entre les mains de Dieu. Dans son travail. Puis, subitement, fin mai, je reçois un coup de fil de la SNEL, ce qui était un miracle lorsque la SNEL...
Parce que vous étiez déjà découragé, quoi.
Oui, lorsque la SNEL vous appelle pour vous dire, voilà, monsieur, on voudrait vous payer déjà une partie de ce qu'on vous doit, c'est un miracle. Moi, c'était un des premiers miracles que j'ai expérimenté. Et alors, la SNEL m'avait payé 30 000 $. Puis, j'ai demandé à Dieu, mais bon, qu'est-ce que je vais faire de ma dîme? Et là, le Seigneur me dira, tu vas à la prison de Makala, tu demandes à parler à mon fils Koya Diallo, et tu lui donnes ça pour les prisonniers. Je ne savais pas que mon aîné Koya Diallo était en prison ici à Makala. Vous savez, à l'époque, il avait été jugé, condamné pour l'affaire des massacres de Lubumbashi, mais je pensais qu'il était en prison à Lubumbashi. Et je suis allé à la prison, effectivement, Koya Diallo était même le capita des prisonniers, donc le chef des prisonniers. J'ai rencontré le directeur de la prison, à l'époque, M. Matambeka. Je mentionne son nom parce que je lui rends hommage. C'est vraiment grâce à ce directeur-là que la parole de Dieu aujourd'hui est prêchée librement
dans la prison.
Oui. Ce jour-là, Koya Diallo n'était pas à la prison. C'était un de ses jours de sortie. Donc, je l'ai revu deux jours après et devant le directeur et je lui ai remis les 3 000 $ pour les prisonniers. Et deux, trois semaines après, ils m'ont invité pour parler aux prisonniers parce que les prisonniers voulait rencontrer la personne qui avait fait ce don. Et c'est ainsi que j'ai commencé à leur parler de matière spirituelle. Et
voilà. Le contact était facile avec les prisonniers?
Oui, le contact était facile. Je dois dire, lorsque vous allez en mission, ou bien dans l'œuvre du Seigneur poussé par lui-même, je crois que vous n'éprouvez aucune difficulté de votre part. Il y a quelques obstacles qui peuvent surgir, mais c'est souvent le signe que vous êtes sur la bonne voie.
Alors, Monsieur Albert Moleka, on a contacté quelqu'un qui vous connaît bien. C'est un ami à vous. Allô?
Allô?
Allô, bonjour monsieur.
Bonjour madame, merci.
Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter?
Je suis monsieur Jean-Claude Moalimou, un ami de plus de deux décennies de monsieur Albert Moleka.
Il est content d'entendre votre voix sur Radio Capi, monsieur Jean-Claude Moalimou. Parlez-nous de votre rencontre, comment vous l'avez connu?
Oh, c'est une longue histoire. En fait, Eric Le Côté Matembe connaissait des difficultés, des périodes assez troubles, et les porteurs du Eric Le Côté Matembe avaient souhaité, sont venus voir monsieur Albert Moleka pour lui demander de prendre la présidence. Et M. Albert Moleka avait posé une condition, à savoir qu'il accepterait de devenir président du Sénat, à condition que je vienne avec mon secrétaire général. C'est alors qu'un ami journaliste, Yannick Yandima, lui a proposé mon nom. À l'époque, je venais d'ailleurs de quitter le secrétariat général adjoint du comité national de Sion Léopard, dont M. André Kimbuta, l'actuel gouverneur de la ville, était secrétaire général, nous dit mandat président. Et nous nous sommes rencontrés avec M. Albert Moleka à Matongé.
En fait,
j'ai passé mon interview pour devenir secrétaire général du Péri.
Alors, il donne même les détails, c'était sur l'avenue Massima Nimba.
Exactement.
Et depuis, vous êtes resté en contact, vous êtes devenu ami.
Nous ne sommes plus quittés. Je me rappelle d'ailleurs que c'était sous la pluie, j'avais mon parapluie en main, et nous avons été pendant 10 minutes. Et voilà, nous sommes allés à l'Assemblée générale du Péri, je suis devenu secrétaire général du Péri. Malheureusement, nous avons été éliminés en demi-finale. Une expérience inoubliable.
Alors, il est quel genre de personne, M. Albert Moleka, vous, qu'il avait fréquenté pendant longtemps?
Il y a deux mots qui me viennent à l'esprit, que j'ai pu expérimenter, et je continue d'ailleurs à vivre avec M. Albert Moleka. C'est-à-dire de la fidélité et de la loyauté. Ces deux mots résument en fait la personnalité de M. Albert Moleka. Un garçon fidèle en amitié et très, très loyal.
Alors, Alors, fidélité, loyauté, ce sont les qualités. C'est ça qui résume pour vous la personne d'Albert Moleka. Mais quel est son mauvais côté que vous n'aimez pas?
Ah, mais je sais, c'est chiant, hein, parce que c'est moi le mot. Non, mais c'est un garçon extraordinaire. Et je crois que sa mission tourne autour de 1 Corinthiens 13. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, ça ne sert à rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux orphelins, s'il me manque l'amour, ça ne me sert à rien. L'amour sans patience, l'amour en service. L'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas. Donc, ça, c'est M. Albert Moleka.
C'est vrai que vous avez effleuré un peu le mauvais côté que vous n'aimez pas, il sait être chiant, vous l'avez dit. Mais c'est beaucoup plus des qualités que vous gardez.
C'est un garçon assez sévère. Il n'hésite pas, certainement pas à dire à ses amis lorsqu'il n'est pas content. Mais ça aussi, je dois le souligner, c'est une grande qualité.
Et qu'est-ce que vous aimeriez qu'il change en lui? Vous préférez qu'il reste tel qu'il est ou bien il y a des choses qu'il doit améliorer
Non. Autrement, il ne sera plus Albert Moleka.
Vous le préférez tel qu'il est, avec son côté chiant?
Tel qu'il est, avec toutes ses qualités et comme tout le monde, avec tous ses défauts.
Alors Albert Moleka, ça vous fait quoi d'entendre ces témoignages sur vous?
Non, première question, c'est comment avez-vous pu trouver moi Limou? Ça, c'est, hein. Mais bon, d'abord, Jean-Claude, c'est un frère, je dirais même plus qu'un frère. Vous savez, vous reconnaissez tant la valeur que la qualité, la relation avec quelqu'un dans les moments difficiles que vous traversez ensemble ou lorsque vous-même vous traversez un moment difficile. Et je peux dire que tout ce que Jean-Claude a dit me touche et m'encourage aussi. Hein. Vous savez, les personnes qui souvent m'encouragent sont des personnes que je sais qu'ils m'aiment vraiment. Et je sais que Jean-Claude est une personne qui m'aime vraiment. C'est un ami, c'est le genre d'ami dont je crois chacun aurait besoin parce que il est là aussi pour essayer de vous recadrer, vous dire là où vous déconnez un peu, là où vous êtes un peu chiant sans raison valable. Je crois que l'encouragement le plus important qu'il a donné, c'est que je ne change pas, je ne compte pas changer dans ce qui est fondamental en moi, c'est cet amour que j'ai reçu de Dieu, de mes parents, de toute ma famille, et c'est un amour que je suis obligé de transmettre partout où j'évolue.
Jean-Claude Moalimo, avant de vous libérer, comme c'est l'habitude hein, dans cette émission, on va vous demander de dédier une chanson à votre ami Albert Moleka, puisqu'il aime la musique.
Ah ben, je devine laquelle.
C'est facile. Trouver Femme ne pleure pas de Zaïko avec Tépé Féli.
Ouais. Femme ne pleure pas de Zaïko.
Femme ne pleure pas. Ouais. Avec Tépé Féli.
Merci Jean-Claude Moalimo. Vous avez un dernier mot à dire
avant. Moi, je vous remercie de m'avoir appelé à cette émission. Bonne journée à vous.
Bonne journée à vous aussi. Bonne journée.
Oui, mais monsieur le secrétaire général, vous auriez pu me dire dans votre SMS de cette nuit que vous seriez en ligne.
Voilà, c'est la surprise. Il ne pouvait pas vous dire ça.
Ça va, reviens vite, on t'attend.
À très bientôt, monsieur le président.
À très bientôt, Jean-Claude.
Alors, au revoir, Jean-Claude Moalimou. Femme ne pleure pas. C'est une chanson que vous aimez beaucoup de Zaïko.
Oui, en fait, c'est une chanson de mon ami et mon frère. D'ailleurs, on s'appelle Mapasa, Félix Manouakou, Pépé Féli. C'est une vieille chanson qui n'était pas très connue, d'ailleurs, mais déjà à l'époque, j'avais apprécié et les paroles et surtout l'arrangement musical de cette chanson. Donc, c'était d'abord en tant que ma fibre de musicien qui avait apprécié cette chanson et puis les paroles. C'est une chanson que moi-même, de temps en temps, je chante, mais j'ai transformer certains passages pour rendre gloire à Dieu.
Alors, je vais vous poser une petite question indiscrète. Hein. C'est vrai que c'est votre vie privée. On en parle aussi dans cette émission. Vous m'avez dit que vous êtes divorcé.
Oui.
Comment vos enfants ont vécu ce divorce? C'était facile pour eux d'accepter ça?
Bon, je dois dire que d'abord, le divorce, ça a été, je crois, une des expériences les plus douloureuses de ma vie. Parce que tout d'abord, lorsqu'on se marie, on ne pense pas au divorce. Et dans ce cadre-là, je n'ai jamais eu de plan B. Mais il s'est fait que, en quelque sorte, j'ai dû accepter de divorcer, puisque le mariage, c'est comme le tango, ça se danse à deux. Lorsque un des partenaires n'a plus envie de danser, c'est difficile. Et en ce qui concerne les enfants, je pense que dans mon cas particulier, les enfants en ont quand même beaucoup souffert, mais après, vu que les enfants vivaient avec leur mère à l'étranger, parce que moi j'étais resté ici, et on restait au contact par téléphone, mais c'est par après, lorsque j'ai revu les enfants des années plus tard, après mon exil, que j'ai vu à quel point, bon, ils souffraient, mais ils ont été aussi très courageux et très compréhensifs, et là, je crois que le fait que, avec leur maman, nous avons pu garder de très bonnes relations, ce qui fait qu'ils ne sont pas confrontés à des parents qui se haïssent ou qui ne se parlent pas.
Voilà, on va demander à Paul Badiadama, qui est de l'autre côté de la baie vitrée, de nous balancer la chanson « Femme ne pleure pas des Aïko Langalanga » pour le plaisir d'Albert Moulika et le plaisir de tous les auditeurs des Radio Okapi qui nous suivent en ce moment, partout en RDC et même à l'étranger, grâce à notre site internet www.radiokapi.net.
Mawa na somo na lali pongi asuka sheri na bakeni olipe na we Nalate koti anzume makila eko tanga na moto Nikonge pipi omotema Na vie zalimi sansenge sheri adieu Wokole la boye oma na nani yege liwa ya somo si maposo de babosani Yawe andi mina pema esi vala vie Nake iye ye na motema moko liwa ya mawa Baloki bako zemba nesengo yawe andi mina pema Mopasi ele kie Somo, si ma posso ne va posare, Yahweh animi la pema, si va la vie. La che ie, la morte ma pembe, li waya mawa, la lo chi va con se va ne sengo, Yahweh animi la pema, o passi e li vie.
Se na suka molongo
Bye bye na kanga na mokiri
Bakulu kayo na libala
Boli go yo 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 yo
Bakana e karawi
Bakana e
Oye
Baya koko
Oye
Bakana e
Oye
Baya koko Oye
Kaina koko ya beto
Napoli na sheringo ake
Solo mama dali panda bako seka
Bako bina kebona sango
Bye bye me lanza na yo masanga
Bakulu kabango na makango
Mokiri yo 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 yo
Bakana o marawi
Bakana e ma
Oye
Banya wongo ma
Oye ye
Bakana e ma
Oye
Banya wongo ma
Oye
Kaya wana kowa
Mami bakera kabana
Solo toko kutana Se
na suka molongo
Bye bye na kanga na mokiri
Bakulu kayo na libala
Bolingo yo 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 yo
Bakana e marawi
Bakana e
mamoye
Banya wongo
mamoye
Bakana e
mamoye
Banya wongo mamoye
Kaina moto ya beto
Napoli na sheriko aki
Solo mamba dali banda bako seka
Mambo bina kebona sango
Bye bye me laka na yo masanga
Bakulu kabango na makamu
Mokiri yo 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 Nyoka longo kana wewe
Bakana e
mamoye
Banya wongo
mamoye
Bakana e
mamoye
Banya wongo kana wewe
Música, 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 música. parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Emmanuel Albert Moleka Nzoko est celui que Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui. Il est entrepreneur et aumônier des prisons. Il est également en politique. On va parler de votre expérience politique. Vous m'avez dit que c'était pas dans vos ambitions de faire la politique.
Non, pas du tout. Et surtout pas en visibilité. Mais disons, j'ai été engagé politiquement assez tôt. C'est-à-dire que, c'est pour ça que j'aime beaucoup reprendre la parole de Saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, que d'ailleurs même le pape François a repris dernièrement, qui dit que la politique est la plus haute forme de charité, parce qu'elle a trait au bien commun. Évidemment, nous avons une image du monde politique qui n'est pas très reluisant, et le milieu politique, le monde politique est souvent même très sale. Mais la question que je me pose, tout comme le pape François, c'est peut-être que le monde politique est sale parce qu'il n'y a pas assez de chrétiens qui s'y intéressent et qui s'y manifestent en véritable chrétien. Si je prends l'exemple de l'UDPS, j'ai été confronté au phénomène UDPS en 1985 à travers un ami dont j'ignorais totalement l'implication dans l'UDPS, qui, n'oubliez pas, à l'époque était un parti clandestin. Et bon, cet ami avait été arrêté et je faisais les démarches pour le faire libérer. C'est dans le processus de cette démarche que j'ai appris qu'il était un des militants de l'UDPS de l'époque. Et donc, à travers cet ami, j'ai pu faire la connaissance, surtout tout d'abord, du regretté Frédéric Ibassa Maliba, qui était devenu comme un frère. Et par après, j'ai senti, vous savez, mon désir perpétuel de justice et de vérité a toujours fait que je me suis toujours retrouvé du côté des marginalisés, du côté des réprimés. C'est ainsi que je me suis retrouvé naturellement dans cette lutte clandestine à ma manière, oui.
Et donc c'est depuis les années 85,
oui, 86, oui.
Que vous êtes dans.
Oui, mais je n'avais jamais eu l'ambition, même la pensée, d'être en visibilité. C'est-à-dire que j'estimais aussi que j'étais assez efficace, puisque tout ce que je m'engageais à faire, j'arrivais à le faire. Et ce que je faisais surtout, c'est aider les prisonniers, les membres de l'UDPS qui étaient emprisonnés, quoi, essayer de les sortir des cachots, des prisons, et de temps en temps aussi les aider à traverser le fleuve sur Brazza pour s'enfuir à l'extérieur. Ce sont des choses qui demandaient.
Parce que vous aviez quelle influence en ce moment-là pour aider ces gens-là à quitter la prison?
Oh ben, tout d'abord avec.
Parce que vous étiez le fils.
Oui, d'abord en tant que un Moleka, ça ouvrait certaines portes. Et puis autre chose aussi que je dois mentionner, moi-même, par exemple, ma condition par rapport au défunt maréchal Mobutu, que j'ai toujours appelé papa, faisait que j'ai eu l'occasion à trois reprises de parler du phénomène UDPS avec lui seul à seul. Et je me suis toujours dit que s'il m'avait interdit, il m'avait dit non, je ne vais pas te voir dans ces histoires-là, tout ça, je pense qu'à l'époque j'aurais arrêté, puisque je le considérais un peu quand même comme mon papa. Je l'ai toujours appelé papa, mais à aucun moment il m'a découragé quoi. Sa seule réaction a toujours été, pour parler de ce sujet, je ne veux aucun intermédiaire entre toi et moi. Bon, je lui disais, c'était une opportunité pour lui pour revenir aux sources de son combat politique, était le manifeste de l'Anselé et avec le multipartisme, et que ça allait plutôt l'aider à briser ce carcan dans lequel toutes ces structures du parti-État l'avaient emprisonné.
Dans l'UDPS, vous avez été membre du comité national de ce parti. De 2004 à 2009, assistant et porte-parole du président national de l'UDPS, Dr. Étienne Tshisekedi, de 2008 à 2011. Aujourd'hui, vous êtes directeur des cabinets et porte-parole de M. Étienne Tshisekedi. Et donc, pour le voir, il faut passer par vous.
Non, maintenant, pour le voir, il y a il y a un protocole, il suffit d'appeler le protocole et on va vous programmer. Si vous passez par moi, bon, je ferai aussi.
C'est plus facile, non, de passer par vous que de passer par le protocole.
Bon, mais des fois aussi, c'est difficile de m'atteindre, moi. Vous savez, il y a des fois des problèmes de réseau, si on peut dire. Ce que je voudrais simplement préciser aussi, c'est que mon travail en visibilité, ça a été effectivement lorsque, d'abord en 2004, lorsque j'étais de retour d'exil, un exil de 4 ans en Afrique du Sud.
Brièvement, pourquoi vous étiez parti en exil?
Bon, j'avais eu certains problèmes à l'entrée de l'Afdel et à un moment, un problème assez sérieux avec un général qui maintenant est décédé, le général Mabila, qui occupait la maison voisine à la mienne, l'ancienne résidence du général Inouki sur route de Matadi, et qui... Il a voulu m'arracher ma maison, il occupait la maison et il devenait assez menaçant. Et compte tenu de sa réputation de l'époque, beaucoup m'ont conseillé de m'éloigner un peu du pays.
Donc, vous restez 4 ans en Afrique du Sud.
4 ans en Afrique du Sud à Cape Town, où j'ai beaucoup travaillé aussi dans l'aumônerie, à la prison de Portsmouth, où Nelson Mandela a passé ses 3 dernières années, et aussi à la prison de Goodwood, qui est une prison beaucoup plus pour les grandes personnalités, une prison un peu de luxe. Et alors, à mon retour d'exil, j'ai trouvé mon ami Rémi Massamba, qui était secrétaire général de l'UDPS. J'ai revu le président Tshisekedi, avec lequel j'avais déjà établi une relation de très bonne qualité à l'entrée de l'AFDEL. Une petite anecdote, il avait été arrêté par le défunt Masasu Nindaga, qui était le numéro 2 de l'AFDEL, et emmené dans la maison que Masasu occupait. Et c'était la maison de mes parents à Montfleury. Et Tien Tshisekedi lui a fait remarquer, vous n'êtes pas dans votre maison, c'est la maison d'Ignace Moleka. Et c'est à la suite de cet incident que j'ai tenu à le rencontrer, vu que dans mon cheminement à l'UDPS, disons jusqu'à cette époque-là, j'étais très peu en contact avec Étienne Tshisekedi. Le souvenir dont j'en gardais, c'était plus quand j'étais très très jeune. Mon père le connaissait, évidemment. Et puis, Rémi Massamba a jugé bon de me recommander comme membre du comité national en 2004. Et puis, en 2008, le président Tshisekedi était à l'extérieur, en Europe, pour les soins. Et c'est à ce moment-là que je l'ai eu au téléphone à sa demande et il me demandera si je peux l'assister, l'aider à ce poste d'assistant et porte-parole. À l'époque, le parti passait des moments difficiles. Il y avait une scission qui était en gestation. Et donc, au départ, je n'étais pas très chaud pour la bonne et simple raison. J'avais d'autres occupations au niveau des affaires familiales, mes propres affaires et de l'aumônerie. Donc, j'ai demandé 24 heures de réflexion. Directement, quand je me suis mis en prière là-dessus, l'Esprit Saint m'a directement dit « Non, c'est moi qui t'envoie pour aider cet homme ». D'où le lendemain, je l'ai appelé en disant simplement « Monsieur le Président, c'est un honneur. Et comme Dieu me dit que c'est lui qui m'envoie pour vous aider, comptez sur ma loyauté, ma fidélité. »
Vous n'avez pas travaillé seulement avec l'UDPS, puisque déjà en 91, vous avez travaillé avec le Premier ministre Moulumba Lukuji.
Oui, encore une fois, c'était à sa demande. Sa demande avait été transmise par mon père. Je me souviens, je crois que c'était au mois de juin 91. Mon père m'a demandé est-ce que ça t'intéresserait de travailler à la primature. J'ai dit, faire quoi à la primature? Non, parce que le Premier ministre, c'est quelqu'un que je connais très bien, c'est un bon technocrate et il souhaiterait que tu puisses travailler avec lui. D'où j'ai fait la connaissance de Moulumba Lukuji et j'ai immédiatement accepté aussi de l'aider. Après lui, il y a eu même Mongoul Diaka, qui a demandé aussi si je pouvais l'aider. Mongoul Diaka était une personne très différente, bien sûr, de Moulumba Lukuji. Moulumba Lukuji, c'était le technocrate parfait qui avait une très haute idée de son pays et de ses fonctions. Mongoul Diaka, malgré ses allures un peu de comédien, je peux dire que c'est une des personnes au niveau politique, analyse politique, discernement par rapport à, disons, une certaine analyse prospective des situations politiques, c'est une des personnes les plus intelligentes que j'ai rencontrées à ce niveau, en ce qui concerne la capacité d'analyser une situation et de donner des recommandations idoines.
De 91 à 92, vous avez participé à la conférence nationale souveraine en quelle qualité?
En qualité de vice-président de la Jeunesse républicaine, qui était un parti créé par mon jeune frère Clovis Munga, puis qui m'a demandé pour mettre un peu de poids, c'était un parti d'opposition, hein, si je pouvais les rejoindre. Et comme à l'époque, vous savez, à la Conférence nationale souveraine, comme l'UDPS avait accepté un peu tardivement d'y participer, donc l'UDPS s'est retrouvé avec seulement 4 représentants officiels comme tous les autres partis. D'où, moi je pensais déjà que stratégiquement, il valait mieux avoir plusieurs autres partis qui soutiennent le combat de l'UDPS. Et à l'époque, déjà, j'encourageais des gens aussi à créer des partis qui soutiennent l'UDPS, vu que l'UDPS n'avait que 4 représentants.
Alors, je constate que dans votre expérience politique, vous préférez être dans l'opposition que dans la majorité.
Chez moi, le problème, en fait, ne se pose pas comme tel. Naturellement, je me retrouve toujours du côté des faibles par rapport aux forts. Je crois que c'est ma nature.
Et si aujourd'hui l'UDPS accède au pouvoir, qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas-là? Vous allez quitter l'UDPS pour aller du côté des opprimés, des faibles, c'est-à-dire ceux qui seront dans l'opposition?
Je crois que si l'UDPS au pouvoir se met à opprimer des gens, je me retrouverai très rapidement du côté des opprimés, ça c'est sûr.
Alors pour terminer, Albert Moleka, chevalier de l'Ordre national du Léopard, ambassadeur pour la paix, décerné par quel organisme ou quelle organisation?
Ah, c'est décerné par l'UPF, c'est la Fédération pour la paix universelle, Universal Peace Federation, qui était une initiative du défunt révérend Moon, qui avait cette idée, cette vision pour la paix universelle et qui a cherché, je crois, des personnes qui pouvaient partager cette vision avec lui et qui pouvaient se consacrer à cette recherche, cette consolidation de la paix entre tous les peuples.
Qu'est-ce que vous avez fait des concrets pour accepter que vous soyez nouveau ambassadeur de la paix? Il ne faut pas poser des
actes. Je suis sûr que eux-mêmes s'étaient informés sur certaines réalisations, certaines actions concrètes que j'avais posées dans mon pays et dans certains milieux, sans faire trop de publicité.
Vos ambitions politiques, Albert Moleka?
En termes de politique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon ambition, c'est toujours de remplir ma mission. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la politique étant la plus haute forme de charité en ce qui concerne le travail pour le bien commun, je compte toujours travailler pour mon pays et pour sa population et au plus haut niveau. Parce que j'ai toujours évolué au plus haut niveau. Je me suis toujours donné ce challenge, toujours du plus haut niveau. C'est l'âme du compétiteur.
Là maintenant, c'est le dernier mot. Un message particulier adressé à tous ces Congolais qui nous suivent en ce moment?
Oui, c'est un message d'encouragement sur ce chemin très dur sur lequel les Congolais se trouvent. Il est inutile de rappeler ici les tragédies que nos populations vivent dans différents coins du pays. Et en face de cette tragédie, je crois, nous pouvons nous réjouir du fait que le Congolais s'est aussi tourné vers Dieu et trouve en l'Éternel la source de sa force. Parce que il faut comprendre que les problèmes du Congo et toutes les adversités que le Congo rencontre, ce n'est que par rapport à son avenir, c'est par rapport à sa destinée. Lorsque votre destinée est une destinée grandiose, il est tout à fait normal que vous rencontriez d'énormes difficultés. Mais je crois que les Congolais, qui sont par nature des personnes de paix, arriveront ensemble finalement à trouver une solution à tous ces problèmes.
Merci beaucoup Emmanuel Albert Moleka Nzoko. C'était vraiment un plaisir pour moi d'échanger avec vous pendant près de 45 minutes dans ce studio de Radio Kaki.
Merci à vous, c'était un honneur pour moi.
Merci beaucoup, merci à Paul Badianyama qui était à la mise en onde de micro Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiokaki.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.